On va peut-être commencer par lire le texte du jour, donc à partir du verset 26 jusqu'au verset 37. Est-ce que j'ai mes lunettes là, ici?
26.
Ah, tu fais tes devoirs maintenant.
Non, je
oui, une note, ce qu'il a.
Non, je repasse sur le crayon.
Ah,
c'est ça. La réponse est au crayon, je repasse à l'autre.
C'est bien, bon, ça va, c'est bien.
Alors, je lis, si vous voulez. Mm-hmm. Dans la version TOB, traduction œcuménique de la Bible. Frères, que vous soyez des fils de la race d'Abraham, ou de ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. La population de Jérusalem et ses chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Sans avoir trouvé aucune raison de le mettre à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire périr, et une fois qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit à son sujet, sous-entendu les prophéties, ils l'ont descendu du bois et déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, eux qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Nous aussi, sous-entendu Paul et Barnabas, nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite au Père, Dieu l'a pleinement accomplie à l'égard de nous, leurs enfants, quand il a ressuscité Jésus, comme il est écrit au psaume second, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Que Dieu l'ait ressuscité des morts sans retour possible à la décomposition, c'est bien ce qu'il avait déclaré « Je vous donnerai les saintes, les véritables réalités de David. » C'est pourquoi il dit aussi dans un autre passage « Tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. » Or, David, après avoir été en son temps au service du plan de Dieu, s'est endormi, a été mis auprès de ses pères et il a connu la décomposition. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas connu la décomposition. Puis après, c'est la troisième partie du discours qu'on verra plus tard. D'ailleurs, je pense bien qu'on ne verra pas tout aujourd'hui non plus de cette seconde partie du discours.
Je peux poser une petite question?
Oui.
Toi, tu as le mot décomposition, moi j'ai le mot corruption.
Oui, pareil.
Donc, pourriture. Moi j'ai pourriture.
Pourriture, oui, c'est
copé
sous là. Encore mieux.
Copé sous là.
Il y a pas l'asticot aussi, non?
Il y a quoi?
Il n'y a pas asticot.
Mais tu vois, dans corruption, il n'y a pas.
J'ai pas compris.
Il n'y a pas asticot.
Asticot.
Moi, je ne vois pas le mot corruption, je ne vois pas tout ce que vous venez de dire.
La corruption du corps.
Oui, oui, mais c'est
la destruction.
Oui, mais en grec, je pose la question. Le mot,
non, c'est pas nouveau. On a dit ça depuis un moment. Et toi aussi, tu as des compositions?
Non, corruption.
Corruption.
Oui, mais c'est à Louis second, moi. Donc,
ah oui.
Tout simplement.
La corruption.
Bah, c'est un mot très large. Hein. Voilà. Pas s'inquiéter, mais ça veut dire la même chose, en fait.
Oui,
tout simplement la dissolution du corps, on va dire. Hein. Donc vraiment, le fait que le corps est un vrai cadavre, c'est ça que dit le texte, en fait. Ouais. Très bien. Donc, pour rappel, on entre dans la deuxième partie du discours. Vous vous souvenez que j'avais dit que chaque partie est introduite par une interpellation aux frères, justement. Quelque chose d'assez, même quasi affectueux comme interpellation. Donc, il s'agit de cette deuxième partie. Bien sûr, on se rappelle qu'il l'adresse aux Juifs de la synagogue d'Antioche de Pisidie, mais il y a aussi des craignants Dieu dans cette synagogue, c'est-à-dire des païens non-juifs, toutefois, soit prosélytes, soit juste craignant Dieu, qui assistent au service du sabbat. Et eux aussi entendent donc cette exhortation de Paul, et ils en déduisent des choses pour eux-mêmes, d'ailleurs on verra ça plus tard, Mais donc, en résumé, que va-t-il apporter dans cette deuxième partie du discours ? Le fait qu'il a été rejeté, ce fameux Jésus, rejeté comme Messie, pas reconnu comme Messie, rejeté par qui ? Ben par les Juifs de Jérusalem. Et ce Jésus qui a été rejeté, Paul le présente ici, dans cette deuxième partie du discours, comme le Jésus historique de Nazareth, donc on sait d'où il vient, et comme le Messie d'Israël, le libérateur promis depuis des siècles, et on peut même ajouter, entre parenthèses, et le sauveur du monde. Voilà, bon, ça on ne le sait pas encore, mais ça va le devenir très, très bientôt. Voilà, ça vous va ? Pour un petit... voilà. Donc on peut attaquer avec le verset 26. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Quelle est la différence avec la première interpellation, celle qui avait ouvert le début de son discours ? Bon, ce n'était pas une question du questionnaire. Dans 16b.
Est-ce qu'il devient plus personnel ?
Alors, qu'est-ce qu'il avait dit en 16b, frère ?
En Israélite, et vous qui craignez Dieu.
D'accord.
Moi, je n'ai pas la même chose, mais c'est une autre traduction spéciale.
Oui, c'est pas grave. Hein. Tandis qu'ici, oui, ou Jean d'Israël, etc. Donc ici, donc, dans la première interpellation, tu l'avais très bien souligné, Bernard, la fois passée, il s'identifie lui-même au groupe. Je suis juif, si tu voulais. Tu ne t'appellerais pas homme israélite des gens qui sont totalement étrangers à toi-même, quoi. Donc il se reconnaît israélite parmi les israélites et les interpelle de manière plutôt avenante, ouverte, etc. Ici,
fils de race d'Abraham.
Ici, dans la deuxième formulation, bien qu'il les considère toujours bien comme frères, il ajoute cette notion d'appartenance au même père, si vous voulez, puisque c'est leur père, le père de cette fameuse nation, celui qui, pour la première fois, a répondu positivement à Dieu et a suivi les injonctions du Seigneur. Il établit donc ici un lien très fort avec son auditoire, comme une judaïté commune, si vous voulez, en les identifiant, eux, comme les descendants d'Abraham, lui et eux, comme une sorte d'unité, on va dire, comme des hommes issus d'un seul et même père. Donc c'est quand même plus fort que la première déclaration qu'il avait faite en 16b.
C'est plus fort qu'israélite, hein, oui.
Oui, tout à fait. Oui. Moi, je trouve que c'est plus oui. proche. Et puis, il n'oublie pas, en deuxième partie de phrase, ceux parmi vous qui craignent Dieu, sous-entendu vous les païens qui reconnaissez notre Dieu ou le Dieu d'Abraham, eh bien c'est à nous que cette parole de salut, dit-il, a été envoyée. Ça va ? Juste un mot par rapport à ces craignants Dieu, puisqu'on est toujours au fin du verset 26. Ça démontre en tout cas une chose dans la bouche de Paul, ou en tout cas à ses yeux, c'est que l'inclusion des gentils a déjà démarré. Pour lui, les païens sont déjà entrés d'une certaine manière, ils ont un pied dans la porte. Hein. En assistant au sabbat, en honorant le Dieu d'Israël, ils ont déjà fait 50% du trajet, et donc ils les considèrent comme inclus dans le salut, puisque si vous regardez bien la suite du verset, c'est à nous que cette parole de salut. Il ne dit pas nous en tant que juifs, nous les deux, c'est-à-dire ceux qui sont d'origine juive et ceux qui ne sont pas juifs nécessairement, mais craignent le Dieu d'Israël, respectent le Dieu d'Israël, adorent le Dieu d'Israël. Et donc c'est un nous collectif assez impressionnant. Je rappelle d'ailleurs qu'en 5:20, chapitre 5, verset 20, il y avait un peu le même genre de truc quand il est dit « Toutes les paroles de cette vie, toutes les paroles de cette vie-là. » Ici, on a la parole de, si je traduis littéralement, la parole de ce salut. le salut qu'on vous a annoncé, etc., ou le salut que les prophètes ont annoncé. Et donc, je reviens au « nous » maintenant. En tout cas, le « nous », c'est la formule des manuscrits les plus anciens, parce qu'il y a aussi une variante avec vous, mais j'y reviendrai dans un moment. C'est à « nous », dans les manuscrits les plus anciens, les plus tardifs, c'est-à-dire « nous, les Juifs, dont Paul et Barnabas sont, et les craignants Dieu, les païens », donc un salut plus large que ne l'avait imaginé le peuple juif au départ. Donc là, il apporte un petit côté nouveau avec son « nous », tandis que la variante signifierait tout à fait autre chose. S'il avait dit « vous », ça signifierait alors que Paul fait référence uniquement à cet auditoire. Il s'adresse uniquement à l'auditoire, sans qu'il y ait une portée plus large. Voilà.
Bon. Chez vous.
Oui, parce qu'il y a effectivement des manuscrits. Alors, plus tardifs dans le sens plus proche de nous, si vous voulez, les plus anciens étant ceux qui sont les plus crédibles. Donc, en tout cas, tous les manuscrits les plus anciens mettent « nous ». Donc, on peut dire, sans trop se tromper, que la variante « vous » ne vaut pas grand-chose, en réalité. Voilà, mais de nouveau, ça nous montre une chose, c'est que le traducteur de cette édition-là, par exemple, a fait le choix de manuscrits qui sont moins...
Ouais. Répandus, peut-être.
Oui, moins crédibles. Voilà. Bon, mais peu importe. Je vous avais posé une première question sur... d'après vous, par quels moyens Paul étaye les arguments de son exhortation? De même, tout le discours, hein, pas juste cette portion du discours.
Peut-être qu'il se réfère à la promesse ancienne.
Exactement. Donc la base de la base, c'est la promesse faite à Abraham. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il introduit cette deuxième partie par... Le père commun, hein, qui est le père de la promesse, finalement, à qui la promesse a été adressée la première fois. Parce qu'on ne va pas remonter à Adam et Ève avec l'histoire du serpent et la promesse qui a été faite d'écraser la tête du serpent. Ça, c'est encore un peu trop large. Mais non, il fait vraiment référence à ça. Mais du coup, pour pouvoir attester... de cette promesse, que fait-il ? Il la rappelle, ça c'est sûr, mais il va surtout, et ça c'est quand même très paulinien, alors il l'actualise et il utilise des textes. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas juste sa pensée rhétorique qui est en cause. Il va chercher dans l'Ancien Testament, d'ailleurs il le dit à un moment donné, que nous lisons chaque sabbat les prophètes, et bien dans les prophètes ou dans les psaumes, on trouve des réponses liés au Messie et à la messianité de celui-là en particulier, de ce fameux Jésus de Nazareth. C'est quand même assez fort, hein, l'air de rien. Donc on se rend compte que tout au long du discours, il va chercher, à droite, à gauche, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, des arguments supplémentaires. Il ne se satisfait pas de la seule promesse faite à Abraham. Il montre que, depuis Abraham, leurs écritures elles-mêmes redisent les mêmes choses avec des accents différents. Donc on verra quel texte il utilise dans cette deuxième partie du discours, mais c'est vachement important, parce que c'est ce qui, à mon avis, va quand même convaincre l'auditoire. L'utilisation des textes qu'il lise traditionnellement le sabbat va avoir un écho particulier pour les gens d'Antioche. En tout cas, c'est peut-être pas vrai toujours partout, dans ce que Paul et Pierre ont essayé de faire, mais en tout cas, là, ça fonctionne.
Et par rapport à Pierre, par exemple, Pierre ne se servait pas de ce procédé?
Si, il s'en est servi aussi. Oui, rappelez-vous, au chapitre 2, par exemple, le premier des grands discours était quand même très étayé, bibliquement parlant, de leurs écritures à eux, évidemment. Ouais. Alors, évidemment, les apôtres, Pierre, Paul et les autres, ils utilisent des textes qui ne désignent pas Jésus de manière nominative, parce que des Jésus, il y en a plein à l'époque, au 1er siècle en particulier. Mais par contre, il démontre que ce qui est arrivé à ce Jésus ne peut être que la réalisation des prophéties. Oui. Parce que ce qui lui est arrivé est hors du commun. Mm-hmm. Bon, on verra peut-être tout à l'heure pourquoi il dit ça. Hein. Et donc Pierre et Paul disent finalement la même chose quand ils s'adressent aux Juifs. Ils auront un autre discours, enfin Paul en particulier, quand il est à Athènes ou dans des lieux totalement païens, entre guillemets, il va se référer à d'autres arguments.
Parce qu'ils ne connaissent pas
les écritures juives, nécessairement. D'accord ? Ok. On peut peut-être continuer avec les versets suivants, 27 à 29. Je les ai un peu regroupés. Qu'est-ce qu'il dit dans ces versets, finalement ? Qu'est-ce qu'il essaye de démontrer ? Ça correspond plus ou moins à la question 2, voire 3, dans le questionnaire.
On n'a pas reconnu Jésus. On n'a pas...
On parle de méconnaissance.
Et qu'ils ont fait ce que la Bible annonçait, finalement.
Exactement. Alors, tout en étant méconnaissant de l'Écriture, ils réalisent eux-mêmes. Ils sont acteurs eux-mêmes des prophéties. C'est assez incroyable, quelque part. Donc ça déjà.
C'est eux qui ont réalisé les Écritures.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm.
Oui. Mais aussi parce qu'on avait déjà vu au tout début de notre lecture des Actes que les Juifs de Jérusalem, notamment les chefs, qu'ils soient politiques ou religieux, étaient pour la plupart des usurpateurs, c'est-à-dire que ce n'est pas des vrais juifs, c'est pas ci, c'est pas là, c'est des gens nommés par les Romains, c'est même au niveau religieux. Donc on imagine bien qu'il n'y avait pas une orthodoxie franche et radicale, hein, donc on composait avec les Romains. On peut comprendre la méconnaissance de cette époque, mais en même temps, cette méconnaissance correspond aux prophéties de l'Ancien Testament. Ne serait-ce que pour cette raison, ils auraient dû ouvrir les yeux. Mais fermons la parenthèse ici pour l'instant. Donc, comme tu le dis, il y a autant dans la population de Jérusalem que dans ceux qui les dirigent une méconnaissance de qui est Jésus. Il n'y a pas une méconnaissance de Jésus, ils le connaissent, le rabbi Yeshua. Ça, c'est clair. Non seulement ils le connaissent, mais ils ont envie de le faire disparaître. Bon, donc, ils le connaissent, mais la messianité de ce rabbi-là, ils ne la reconnaissent pas, parce qu'ils ont encore un voile sur les yeux. Alors, il y a trois raisons, je pense, en tout cas, c'est ce que Paul nous dit. Il développe trois raisons qui ont présidé au rejet de Jésus. Est-ce que vous avez pu les identifier éventuellement ? Donc, il y a celles dont on vient de parler, hein. L'ignorance, ça dépend des versions, l'ignorance, la méconnaissance, etc. Alors, je reviens quand même une seconde sur ce premier point. C'est pas rien de dire ça. Parce que ça veut dire, vous qui êtes pratiquant, vous qui assistez chaque samedi au sabbat, vous qui lisez les prophètes chaque samedi, hein, et la loi, vous n'avez pas été capable de reconnaître en Jésus de Nazareth celui qui est annoncé dans les Écritures. Bon, c'est quand même pas rien comme argument, notamment dans les Écritures, c'est-à-dire depuis la promesse faite à Abraham jusqu'aux plus récents prophètes, alors soit ceux d'il y a 4 siècles, soit Jean-Baptiste inclus, peu importe, hein, puisque certains pensaient que c'était Élie et que c'était revenu et patati et patata. Donc, ok, c'est quand même étrange. Donc il leur dit, première raison, c'est votre ignorance, alors que vous avez l'Écriture dans les oreilles. Vous l'entendez, et vous l'entendez même expliquer tous les Shabbats. Deuxième, qu'est-ce qu'il dit en deux ? C'est le verset 27-28.
Ils l'ont condamné.
Alors, comment on pourrait appeler ça ? Ils ont une responsabilité active. Alors, les chefs comme les habitants de Jérusalem, responsabilité active dans cette méconnaissance des Écritures, dans la volonté de condamner Jésus à mort, sans motif valable, dit Paul. C'est quand même très fort aussi. Hein. Ce que Pierre avait fait d'ailleurs dans son premier discours aussi. Il leur dit, ben oui, la méconnaissance entraîne que vous ne supportez pas celui qui dit les choses et que votre seul but, c'est finalement de l'exterminer. Et puis, non seulement il y a la volonté ou l'envie de l'exterminer, mais il y a le passage à l'acte en suppliant Pilate, c'est ce que dit Paul ici, hein, en suppliant Pilate de le condamner à mort, alors que Pilate lui-même ne trouve aucune raison à le condamner, puisque Pilate était prêt à le libérer contre l'autre.
Ouais.
Hein, vous vous rappelez de ça? Donc, ils vont au-delà en demandant l'exécution, et l'exécution la plus infamante qui soit pour un juif. C'est-à-dire, on aurait pu le lapider, ils auraient peut-être pu demander l'autorisation à Pilate, si on a envie de le lapider, celui-là, mais ils ne peuvent pas, ils n'osent pas le faire. Alors ils demandent aux Romains de s'en charger, et l'exécution est finalement acceptée. Mais pourquoi est-elle acceptée d'après vous? Si vous relis, enfin, si on se replonge un peu dans les évangiles, qu'est-ce qui a fait capoter
la
Pilate?
La première chose, c'est parce qu'il fallait quand même que les écrits soient justes par rapport à la mort.
Okay.
Donc, ouais, ils n'ont pas eu trop le choix. Il fallait quand même.
Il y a des émeutes aussi dans.
On ne pouvait pas le lapider.
Donc il y a quand même une manipulation par les chefs religieux et politiques de. Alors on ne va pas dire du peuple, mais des habitants de Jérusalem. Donc ils soulèvent suffisamment de gens contre Jésus pour que Pilate se dise il va y avoir du grabuge. Alors on va leur donner ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette pression, les choses se seraient passées autrement. C'était la parole des religieux, qui n'avaient pas grand poids pour Pilate, entre nous soit dit. Donc voilà, Pilate, il a cédé parce qu'il y avait quand même du grabuge dans l'air, et ils avaient déjà sur le dos un certain nombre d'autres groupuscules qui, eux, étaient armés, d'ailleurs. Et qui ne voulait surtout pas qu'il se mélange.
Comme Barabbas.
Oui, oui, exactement. Donc, Pilate, c'est pas qu'il a peur. Pilate ne veut pas qu'il y ait du grabuge. Parce que dès qu'il y a du grabuge dans une province romaine, ça remonte à Rome.
Ouais.
Et après, et on perd des places, tu vois. Ouais. On monte pas. Dans... Donc, voilà. Il faut que ça nickel, quoi. Hein.
Voilà. L'ambition.
Donc, on a dit ignorance ou méconnaissance. Deux, responsabilité active dans le décès de ce fameux Jésus que vous ne considériez pas comme Messie. Et trois, alors ça c'est plutôt 27b, 29a, on trouve que la condamnation de Jésus est accomplissement de l'Écriture. Donc, ça n'aurait pas pu se passer autrement, on va dire ça comme ça finalement. Parce que Dieu voulait, et le Christ voulait, que les choses puissent être
accomplies
totalement. Donc une condamnation de Jésus comme accomplissement des Écritures, en particulier la parole des prophètes, c'est ce que dit Paul ici, notamment dans l'usage d'Ésaïe 53, qui était lu couramment, hein, etc., qu'on lisait quasi chaque sabbat et que les Juifs auraient donc dû pouvoir décoder, puisqu'on lisait les prophètes. Et quand on dit les prophètes, on parle de tous les prophètes, c'est-à-dire, il faut savoir que pendant tout un temps, il y avait quelques livres prophétiques, comme Ésaïe, par exemple, Ézéchiel, mais que la plupart de ce qu'on appelle, nous, les petits prophètes, ne faisaient partie que d'un seul et même bouquin. Donc il y avait un seul et même parchemin, si vous voulez, pour les petits prophètes, parce qu'ils ont écrit parfois trois lignes, et que les autres, évidemment, ont des chapitres, hein, comme Ésaïe ou Ézéchiel, ou même Daniel, c'est quand même assez long. Donc, il leur dit qu'il y a ces trois raisons, et du coup, c'est un peu comme s'il amenait en filigrane une sorte de conclusion en disant, mais finalement, oui, il y a des circonstances atténuantes à votre méconnaissance, parce que Dieu est aux manœuvres, entre autres, mais la méconnaissance est quand même coupable. Un juif qui méconnaît sa propre croyance, ou ses propres valeurs, ou ses propres textes sacrés, ça, c'est quand même pas chouette, quoi. Donc il leur dit, vous avez quand même une responsabilité, c'est de ne pas aller au bout de ce qui vous est annoncé. c'est de ne pas mettre foi dans ce qui vous est annoncé, etc. Alors, il leur reproche deux choses dans cette méconnaissance coupable. C'est la condamnation à mort sans raison légale valable, et c'est la condamnation à mort, alors il ne le dit pas là, mais c'est moi qui le rajoute, du juste. C'est ça qui est parfaitement scandaleux, finalement, dans cette histoire. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, il leur reproche l'incapacité de comprendre les paroles prophétiques. Eux qui les entendent, ou qui les chantent, ou qui les disent, Shabbat après Shabbat. Et puis bon, donc, il continue sa démonstration. Et qu'est-ce qu'il ajoute à cette démonstration, après avoir un peu collé les motifs ou les raisons du reniement de Jésus, ou de la non-reconnaissance de la messianité de Jésus? Il rajoute d'autres choses. C'est à partir du 29b, si j'ai bon souvenir.
Il le descend de la croix, il le dépose dans le tombeau.
Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça?
Et c'était Joseph d'Arimathée qui a demandé à
le dépendre. Dans son propre tombeau.
Donc en grec, on a un pluriel indéfini. Comme « on », si vous voulez.
Voilà.
On pourrait presque traduire.
On pourrait mettre « on ».
C'est « ils », ici, au pluriel.
Oui, 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 oui.
Mais après, c'est un « il » collectif. C'est, voilà. C'est un « on » un peu anonyme, si vous voulez. Ils l'ont descendu du bois. Alors là, on ne dit pas la croix, effectivement. Mm-hmm. En grec, c'est bien le bois. Alors le bois, c'est synonyme de potence, si vous voulez, hein, peu importe, et de croix, bien entendu, en l'occurrence. Ils l'ont descendu du bois et déposé dans un tombeau. C'est ce que dit le verset 29b. Alors, rappelons-nous une chose. C'est pas rien ce qu'il dit. Nous, on n'entend pas ça, parce qu'on n'a pas les oreilles juives. Mais dire qu'on descend quelqu'un du bois, c'est pas juste une action. On décloue le gars et on le descend et puis on l'emporte. C'est quand même... Comment je pourrais l'expliquer? Pendre quelqu'un à une potence, à un arbre, à la croix,
c'est un scandale. Hein.
C'est un scandale. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas pire mort que celle-là pour un juif. Mm-hmm. Pourquoi? Pas simplement parce que c'est infamant, mais il y a une raison qui est dans la loi.
On dit, soit quiconque est pendu au bois.
Ouais, exactement.
Une parole.
Donc, dans la loi, et notamment dans le Deutéronome 21, versets 22 et 23, on nous décrit, qui est donc un texte de loi, on nous décrit ceci, que suite à ce type d'exécution, que l'exécution ait été faite par des juifs, ou par quiconque, du moment qu'un juif est pendu au bois, il faut enterrer le cadavre immédiatement, le jour même, avant la nuit tombée. C'est la règle. Mais ce n'est pas juste une règle. La règle a une explication. Et c'est ça que nous ne pouvons pas percevoir. Le côté relief, si vous voulez, de cette histoire, il s'adresse à un auditoire, allez, on va dire à 80% juifs et peut-être à 20% païens, et il leur dit... Vous vous rendez compte de cette ignominie? On a pendu au bois, on a maudit, on a rendu maudit, si vous voulez, cet homme-là à qui on n'avait rien à reprocher. C'est ce qu'il leur a dit juste quelques secondes avant. Et donc, il est devenu l'objet d'une malédiction divine. Et dans Deutéronome, alors ça vaudrait peut-être la peine que quelqu'un le lise, on se rend compte que le cadavre d'un pendu est impur et rend impur le territoire. Et oui, la fameuse terre promise, ou sacrée, si vous voulez. On rend impur le territoire, le pays de la promesse. Et on peut faire plusieurs hypothèses. Mais si quelqu'un l'a sous les yeux, Deutéronome, donc 21, 22 à 23. Deux versets.
Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort,
puis que tu l'aies pendu à un bois. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage.
Tu vois un petit peu la portée du truc. Mais relis le tout début, parce que ça vaut la peine.
Donc,
22.
Ainsi l'ont fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort.
Tu vois ? Est-ce que Jésus a commis un crime ?
Un
crime qui méritait la peine de mort ? Et c'est là qu'en en leur rappelant ça, l'histoire du pendu et patati patata, Paul rappelle à leur mentalité, en tout cas, les raisons pour lesquelles on pouvait pendre quelqu'un. Mais était-ce le cas pour ce Jésus de Nazareth qui, entre parenthèses, n'a fait que du bien, d'après ce qu'on sait. Donc, guérir des gens, sauver des gens, ressusciter l'un, faire cela, s'adresser autant aux femmes qu'aux hommes, aux pauvres qu'aux riches. Qu'est-ce qu'on pouvait lui reprocher ? À part qu'il dérangeait, évidemment, la caste des politico-religieux de Jérusalem. C'est intéressant de se souvenir que ce texte existe. Et on peut faire plusieurs hypothèses. Par exemple, si on se posait la question « Mais pourquoi la mort de quelqu'un par pendaison rend le territoire souillé ?»
Parce qu'il y a corruption. Déjà, la mort, c'est une corruption.
L'état de mort.
Ouais.
Bon. Mais la manière de le faire, peut-être aussi. Et je pense ici, quand tu utilises un arbre pour pendre quelqu'un, ou une potence, ou une croix, enfin peu importe, tu utilises du matériel de la création, d'une certaine manière. Donc quelque part, tu profanes ce matériel déclaré bon pour tuer quelqu'un. En plus, si ça se passe sur la terre promise, ça la fout mal. Et on se rend compte donc qu'il y a dans la mentalité juive l'idée que faire couler le sang de quelqu'un, surtout si en plus c'est un innocent, entre parenthèses, et que tu l'as fait couler sur la terre même d'Israël, c'est problématique. Tout sang qui coule est un problème. On l'a vu ça déjà en Genèse avec l'histoire du meurtre de Caïn. Tout d'un coup, c'est la terre elle-même qui crie vers le ciel en disant « Oh Dieu, il se passe quelque chose ici !» Vous voyez ? Donc, tout ce rapport au sang pose un problème et est une offense d'une certaine manière. Vous rappelez-vous que c'est seulement l'alliance en Noé qui a permis qu'on tue des animaux. Avant cela, il n'en est pas question. Tu ne peux pas tuer comme tu veux, manger ce que tu veux, etc. Sauf à l'offrir au Dieu d'Israël. On suppose que Abel a offert un bel agneau.
Sans tâche.
Bref.
Deutéronome combien ?
Donc c'était 21. 22, 23.
Petite question. Et il pendait au bois, les Juifs ?
Alors, c'est arrivé dans l'histoire.
C'est arrivé.
Oui, mais ce n'était pas le mode... Le mode normal.
Voilà, c'est ça. Pour qu'il ne fasse pas.
Le mode normal, c'était la lapidation. La lapidation sur base d'un jugement, sur base d'un vrai crime ou d'une vraie offense au Dieu d'Israël. D'accord ? Tandis qu'ici, quand un homme est pendu, c'est souvent pour souligner son indignité. Donc si on pendait quelqu'un, c'était pour quelque chose de super grave et en même temps, ça le rendait, comment on va dire, totalement indigne et totalement impur et maudit, ce qui est très loin, ça va très loin.
Ça se voyait.
D'ailleurs, vous vous rappelez que quand Saül meurt, ses ennemis le suspendent à la muraille de la ville. Alors, je ne sais plus laquelle c'était, non, si c'est pas Haï, mais enfin, peu importe. Ils le suspendent à la muraille et les Juifs vont s'empresser d'aller l'enlever, parce qu'il est pendu à la muraille, si vous voulez, d'aller l'enlever. Pour pouvoir l'enterrer, parce que c'est infamant, c'est moche. Bref, mais je vais aller un petit peu plus loin. Donc on va prendre un peu de temps pour ça, parce que je tiens vraiment à ce qu'on se mette dans la peau de ceux qui entendent ce discours, et pour qui ça fait tilt. Il se passe là quelque chose qui est quand même des arguments de poids. Au fond, dans l'écriture juive, on découvre que certains actes des humains peuvent souiller ou rendre impur le territoire de la terre qui est promise à Abraham, qui a été promise à Abraham. Terre dans laquelle ils vivent maintenant, depuis des générations et des générations. Alors, plusieurs choses pouvaient rendre le territoire impur, et on va un peu se les remémorer, parce qu'alors ça va nous, peut-être nous expliquer d'autres passages de l'Écriture. Il y avait d'abord l'idolâtrie. Toutes les pratiques païennes d'idolâtrie, l'adoration de faux dieux, des pratiques païennes avec des sacrifices, sont considérées comme souillant le pays. Tous les textes de l'Ancien Testament que vous lirez sur les abominations des païens, entre autres, et des Cananéens en particulier, eh bien, elles sont abominations parce qu'elles rendent le territoire impur, entaché, sali, comme si ce territoire avait une valeur en soi, intrinsèque, si vous voulez. Et elle a une valeur en soi parce que Dieu l'a choisi d'y résider. C'est ça qui se passe, en tout cas pour l'Ancien Testament. Deuxièmement, les crimes de sang. Donc, le meurtre est vu comme polluant la terre. Par exemple, je vais citer un texte de Nombre pour qu'on ait une idée. Nombre 35, versets 33 à 34, qui nous dit « Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. » Vous voyez un petit peu. Donc ça va très loin. Alors il faut aussi savoir, puisqu'on parle de crime ici, et que je pense qu'on peut parler de crime pour Jésus, dans le sens qu'on l'a vraiment assassiné, eh bien la pendaison, vous le savez, provoque aussi des émissions de fluides, quels qu'ils soient, l'urine, la défécation, etc., qui, à plus forte raison, souille réellement et le supplicié, et le sol sur lequel il se trouve. Or, la perte de fluide dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, c'est grave. Il fallait aller se baigner sept fois, remplir toute une série de choses, offrir un sacrifice pour être déclaré pur après coup. Vous voyez, même les femmes, les règles des femmes, même topo. Donc tout ce qui a trait à des fluides ou du sang doit être réparé d'une certaine manière. Après, il y a l'immoralité sexuelle, qui est un autre domaine de souillure du territoire, notamment certaines pratiques, et plutôt les pratiques cananéennes. Alors on peut parler d'homosexualité, enfin, d'inceste et de zoophilie, tout ce qui est interdit dans Lévitique, finalement, est compris là-dedans. Et d'ailleurs, Lévitique 18 affirme « Ne vous souillez par aucune de ces choses, après une très longue liste de déviances sexuelles, si vous voulez, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations » que je vais chasser devant vous, sous-entendu avant l'entrée en Canaan, le pays en a été souillé. Donc ça, c'est avant la réalisation totale de la promesse, avant l'entrée en Canaan, que Lévitique déclarait déjà ce type de choses-là. À plus forte raison, quand on y habite, les Juifs qui se sont livrés à ces mêmes cultes, orgiastiques, païens, eh bien, souiller complètement le territoire qui est aussi en même temps le territoire de l'Alliance, hein, d'une certaine manière. Bon. Et enfin, il y a un dernier trait qui est moins connu, je pense, mais qui est très défendu par les petits prophètes, Malachie, Amos, etc. Eh bien, c'est l'injustice sociale. Donc, l'oppression des pauvres et des faibles, le non-respect des veuves, était souvent présenté comme une souillure pour le pays. Voilà déjà, ça nous fait donc un, deux, trois, quatre points qui nous décrit comment on peut souiller le territoire.
Cinq. Idolâtrie, crime de sang, perte de fluide, immoralité.
Oui, sociale, les fluides, j'ai mis avec tout ce qui était sang. C'est le même genre de problématique, si tu veux. Donc après, il faut se dire, mais alors pourquoi c'est grave tout ça, finalement, hein? Pourquoi ces 4-5 points peuvent être considérés comme une offense grave? qui a des conséquences.
Parce que ça va à l'encontre de la sainteté de Dieu.
Exactement.
C'est complètement opposé.
Offense à un Dieu qui habite au milieu de son peuple et qui est saint.
C'est sa terre.
Oui, en y résidant, en tout cas.
C'est sa terre, oui. C'est là où il est, aux tes chaussures. Quoi, hein. Ça fait penser un peu à ça, il est saint.
Exactement. Alors, cette sainteté-là, elle entraîne, allez, je dirais, deux modes d'amendement. Comment peut-on sortir du cycle de la souillure, si vous voulez? Comment on peut revenir à quelque chose de... Alors, il y a d'abord l'exil. De temps en temps, quand Israël n'était pas foutu de dominer ses errances, et notamment la souillure de leur territoire, eh bien, on leur disait, allez faire un tour ailleurs. Hein. On va un peu lessiver ici, oui, le territoire. Et vous allez faire 60 ans là-bas, ou 50, ou 200. Notamment, Babylone, on sait toutes ces choses qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Donc, au fond, on se rend compte que la privation de la Terre Sainte est une manière pour Israël de regagner en dignité, parce qu'une fois que tu es en exil, on l'a lu dans les prophètes, tout. Qu'est-ce qui se passe? Même Néhémie, Esdras, il se passe qu'on pleure après la Terre Promise. Il se passe qu'on languit de revenir à Jérusalem. On languit du temple et des sacrifices. Et finalement, on fait amende honorable et on dit à Dieu, écoute, on a compris, on aimerait bien rentrer. Et Dieu suscite quelqu'un, peu importe lequel, mais souvent des païens d'ailleurs, Cyrus et d'autres, pour nous faire retourner dans la terre que nous aimons, et qui est la terre de Hachem, la terre du Dieu d'Israël. Intéressant. Premier, donc, manière de gérer le problème. Deuxième, des rituels de purification pour restaurer la sainteté du territoire. Alors, ce n'est pas le territoire en tant que tel qui est sacré ou saint, c'est le fait qu'il est la propriété, puisque c'est Dieu qui l'a donné, la propriété du Dieu d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce qu'aujourd'hui, les politiques ne peuvent pas comprendre avec cette histoire d'Israël et de la terre. On ne peut pas, puisqu'on ne reconnaît pas ce Dieu d'Israël, pourquoi aurait-on une idée que le territoire, hein, l'espace du territoire d'Israël est sacré, est mis à part, si vous voulez?
Parce que finalement, on leur avait proposé un territoire en Argentine ou...
Oh, il y en a qui avaient proposé l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud, etc.
Madagascar.
Ça
n'a pas la même valeur. Hein, pour eux.
Ah ben non, pas pour eux. Non, pour nous, c'est égal. Ça montre bien notre ignorance.
Oui, voilà. Les Occidentaux auraient bien pu vivre là tranquille.
Ah oui, Madagascar.
Ah ouais, vas-y. C'est terrible, hein, ça.
Donc,
c'est là qu'on voit là.
Quand même, quand tu penses que pendant des millénaires et des millénaires, les Juifs ont prononcé les mêmes prières.
Ah oui.
Et le même souhait
l'an prochain
à Jérusalem. Ah ouais. Ça se réalise, alors les bonnes ou mauvaises raisons pour lesquelles ça s'est réalisé après la Shoah, admettons même que ce soit foncièrement politique, une politique de gauche d'ailleurs, pour ce qui était des Juifs en tout cas, ils sont rentrés là. Et parmi tous les gens qui sont rentrés, même s'il y avait des gens très à gauche, agnostiques et tout ce qu'on veut, il y avait énormément de gens qui étaient religieux. Donc, on peut dire ce qu'on veut, le retour d'Israël, le retour des membres de ce peuple, de ceux qui sont restés sur le territoire en 48, même avant 48 d'ailleurs, sur ce territoire, est totalement miraculeux, totalement extraordinaire. Mais pour un juif, c'est naturel. Pour nous, ça paraît incroyable, mais pour un juif, c'est normal. La confiance en Dieu fait qu'un jour, on retournera. Ce n'est pas pour rien qu'on le disait chaque année dans ces prières-là. On sait que ça arrivera, tout comme ils sont convaincus que le Messie va venir. C'est une évidence pour n'importe quel petit religieux. Il n'y a même pas besoin d'être rabbin pour ça, quoi. C'est normal. Et donc... Je disais que ça nécessitait des rituels de purification pour que le territoire soit de nouveau propre, et notamment propre à recevoir l'adoration que l'on doit au Dieu d'Israël. Puisqu'il ne peut pas y avoir de mélange dans le judaïsme. On ne peut pas faire 20% mal et puis 80% bien. Ça doit être 100%. Et pour qu'il y ait du 100%, ben, il faut quelque part, comment dirais-je, une responsabilité collective. Et donc ça sera peut-être ma conclusion là-dessus. Ben, qu'est-ce que ça soulève tout ça finalement? Quelle est la conception qui se cache derrière cette idée de sainteté du territoire? Eh bien, ça souligne l'importance de la responsabilité collective d'Israël. Israël est le garant que ce territoire reste saint. S'il ne leur avait pas été donné en héritage, si jamais aucun Dieu ne s'était mêlé de leur donner ce territoire, il n'y aurait pas cette responsabilité. Mais la responsabilité, elle est contractuelle, si vous voulez. Dieu nous a donné, et donc nous, nous sommes redevables. Et pour être redevables, pour que ce soit clairement établi, eh bien, on ne va jamais commettre ces choses-là. Souillure, machin, truc, enfin tout ce qu'on a décrit tout à l'heure. Du coup, on doit nous comprendre, enfin nous les Occidentaux, on doit comprendre qu'il y a une relation dans le judaïsme entre le peuple, la terre et Dieu. C'est trois piliers, ou trois, je ne trouve plus le nom, les trois côtés du triangle, si vous voulez. Il faut une relation entre le peuple, Dieu et la terre. Et c'est indissociable. Un juif ne peut pas penser la terre sans Dieu, même s'il est agnostique. Tout à fait. C'est ça qui est fou. De même, il ne peut pas penser être peuple, un peuple un et un indivisible, si ce n'est parce qu'il y a Dieu, etc. Et donc, vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. C'est vraiment comme un triangle. C'est du solide. Et c'est vraiment ce qui forge la mentalité juive. C'est assez extraordinaire, quelque part. Bon, alors, du coup, la mise en croix de Jésus, puis je reviens quand même à notre histoire du bois, maintenant, sinon ça n'aurait pas de sens, cette démonstration. Du coup, la mise en croix de Jésus, et je le rappelle, Jésus le juste, ça c'est l'info que nous avons, après coup, bien entendu, ça lui fait porter la malédiction de la loi, que, normalement, nous devrions, alors nous les juifs ou nous les païens, nous devrions normalement endosser à cause de notre péché. Ou pour le dire autrement, à cause de la nature pécheresse dans laquelle nous sommes enfermés. Normalement, puisque nous sommes pécheurs, autant juifs que païens, puisque nous sommes pécheurs, nous avions besoin de la loi. Et la loi nous disait quoi? Ah, t'as fait ça? Alors tu dois aller offrir un sacrifice, tu dois te tremper 10 fois dans machin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée d'être sauvé, rétabli, lavé, purifié, elle est là tout au long de l'Ancien Testament. Le Christ, lui, meurt sur la croix pour cette raison-là, à cause de nous, en définitive. Et il accepte cette mort, parce que ça, c'est ce qu'on découvre aussi dans les textes du Nouveau Testament. Il accepte cette mort infamante du maudit pour nous, c'est-à-dire pour les juifs et les païens, et pour nous délivrer du péché qui a causé cette mort. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est d'ailleurs ce que Paul redira aux Galates. Hein. Si on relit Galates 3, par exemple, on découvre le même genre de démonstration. Donc, au fond, il leur dit « Ok ». Vous avez quand même quelques circonstances atténuantes. La circonstance atténuante principale, c'est qu'il fallait que les prophéties se réalisent. Désolé pour vous. Mais en même temps, il fallait que le péché soit anéanti par un acte suprême, finalement, qui rétablit tout homme dans la possibilité d'être droit aux yeux de Dieu. Ça, c'est assez fou quand on y pense. Et je pense que là, on est déjà dans une, comment on va dire, une vision. Pierre n'a jamais abordé ça, par exemple, dans les discours qu'on a lus jusqu'à présent. Mais Paul va très loin. Il fait une démonstration sur la messianité de Jésus, sur le but de cette messianité. sur le salut qui est apporté non seulement aux Juifs, mais au monde, à tous les peuples, c'est-à-dire à tous les peuples qui descendent d'Abraham, rappelez-vous ces textes, hein, la multitude, les étoiles, etc. Bon, finalement, on pourrait presque dire le salut, il est cosmologique, hein, il est universel, quelque part. Dieu offre un salut plein et entier. Mais voilà, sa démonstration n'est pas tout à fait finie. Parce que qu'est-ce qu'il va ajouter après tout ça? Ça, c'est plus verset 30.
Je reviens à ce que tu viens de dire. Oui. Ça devait faire un petit peu tilt dans leur tête aussi, parce que il est en train de parler de l'action substitutive. Et tout au long du peuple juif, il y avait le sacrifice d'une victime innocente pour réparer le tort.
Oui.
Et il est en train de dire, ce Jésus a accompli cela. Mais évidemment, il faut que ça facile pour dire, ah, c'est pas simplement une colombe, c'est pas simplement un bélier, c'est le Fils de Dieu. Mais dans leur tradition, la correction substitutive, elle existe depuis
Tout à fait. Ce qui est très difficile, si tu veux, alors maintenant je me mets vraiment, j'essaye de me mettre à la place d'un juif de l'époque, ou d'aujourd'hui d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas reconnaître en notre Jésus, si tu veux, le Jésus du Nouveau Testament, leur Messie? Eh bien, si tu creuses bien la question, tu découvres que eux attendaient un Messie, alors davidique certainement, mais un Messie qui gouvernerait réellement, historiquement parlant ou charnellement parlant, qui rendrait Israël grand aux yeux des nations, etc., etc. Et parce que les Juifs sont enfermés toujours dans une lecture historique, finalement, de la place du Messie. Un Messie qui serait en Israël, qui ferait des choses grandes et belles pour la nation, mais aussi pour les peuples de la terre. Alors que le Nouveau Testament nous offre, et vous verrez tout à l'heure peut-être pourquoi, quelle est la différence, mais nous offre un autre Messie qui, lui, n'a pas besoin du revêtement historique. Il n'a pas besoin d'être là en chair et en os, si vous voulez. Un Messie qui, du coup, devient durable, disons le mot éternel. Mais on verra tout à l'heure pourquoi, ben, si on a le temps. Parce
que... Est-ce que l'apparence humaine de Jésus n'a pas été une pierre d'achoppement?
Ça, c'est un problème.
De le voir humble, homme, qu'on pouvait toucher, sentir, parler, entendre, ça devait les dépasser probablement. Est-ce que
ça ne correspond
dans l'Ancien
pas.
Testament, avec le Dieu qui les guidait par la flamme et la nuée, les tremblements de terre, les choses terribles qu'ils ont vues, magnifiques et terribles en même temps, et ce Jésus humble comme un agneau,
ça ne le voyait pas comme ça. C'était un guerrier qui allait les délivrer de leurs ennemis et tout ça quand même, et qui allait les faire prospérer.
Si tu veux, le Jésus historique, ou le rabbi, disons, hein, le rabbi Yeshua, se baladant sur ce territoire et même en dehors du territoire d'Israël, n'a jamais été autre chose pour eux qu'un rabbi et un rabbi dérangeant. Personne n'a même imaginé qu'il fût prophète. Mm-hmm. Alors que Jean-Baptiste, oui. Mm. De Jean-Baptiste, à cause de son discours, de son habillement, etc., de sa gestuelle prophétique, tout le monde se dit, ce gars est un prophète. Mm-hmm. Puis il annonce le Messie, donc le Messie arrive, là, manifestement. Mais où est-il? Alors que Jean-Baptiste pointe du doigt, je dis ça, c'est caricatural, hein, pointe du doigt le Messie, et bien il ne le voit pas.
C'est fou. Hein,
impossible.
Mais quand on a des idées
parce qu'il aurait fallu, si vous voulez, que ce Jésus soit réellement reconnu comme de la lignée davidique. C'était déjà pas si évident que ça. D'autant qu'il n'habite pas les cités en question. Il habitait Nazareth, en Galilée. Galilée, d'où ne sort rien de bon, comme on l'a vu. Hein. Donc nécessairement, Jésus a tout faux. C'est comme si Dieu avait trafiqué les cartes pour qu'on ne reconnaisse pas la messianité de ce Jésus-là.
Et mais c'est parce qu'il ne veut pas nous l'imposer.
Non, mais aussi parce que le salut nécessite. Le salut nécessite cet aveuglement.
Sinon, ce serait
le salut. Vous voyez ce que je veux dire, large, au sens abrahamique du terme. C'est-à-dire, toutes les nations seront bénies, patati patata, à cause de toi. Ben, si c'est juste un salut au niveau du territoire d'Israël, ben, ça ne touche personne. Hein. Voilà. Alors, la messianité de Jésus, c'est autre chose. Jésus, il veut aller au bout de la promesse qui a été faite à Abraham. Et le bout, c'est naître juif, hein, s'incarner dans cette société juive, vivre pleinement en juif, mais mourir en Messie pour l'ensemble des hommes, de l'humanité. Et ça, ça nécessitait un autre scénario.
C'est fou, hein ? Dieu a voulu que son fils soit rejeté, vu comme un imposteur, pour qu'il paye le prix. Il aurait pu très bien, Dieu, mettre tous ses anges en œuvre et secouer tout le monde. Mais il a voulu que ce soit un homme saint.
Alors, il y a des tas. Exactement. Puis il y a des tas d'autres raisons. On n'a pas le temps de les expliquer ce soir. Mais il faudrait faire une analyse des sacrifices dans l'Ancien Testament pour se rendre compte à quel point la mort du juste sur une croix est une manière suprême de vivre le sacrifice. Comment Dieu s'auto-sacrifie, si vous voulez, pour nous, pour la créature. C'est de l'ordre du scandale. Moi, je comprends que les Grecs ne puissent pas accepter un truc pareil, quoi. Les païens n'étaient pas en mesure de comprendre. Et pourtant,
c'est pour ça qu'il y a eu le peuple juif, parce qu'on lui l'a préparé alors, à ça.
Donc, il nous fallait ce peuple. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure un peu plus. Et Jésus avait besoin de naître juif, justement, parce que la promesse a été faite à un des ancêtres, etc. Et de la lignée de David, parce que ça joue aussi un grand... On le verra plus tard dans la suite du texte, hein, mais ça joue quelque chose de très important quand même. Alors finissons-en peut-être avec ça va ou Yann ?
Ouais, finalement, est-ce qu'ils ne l'ont pas rejeté aussi ? Parce que, étant des religieux, ils se complaisent dans les sacrifices, dans les rites. C'est très difficile de sortir de ça finalement.
Déjà.
Hein.
Et tu puis.
Alors ils l'espèrent, mais même s'ils le reconnaissent, ils préfèrent encore rester, ils le rejettent. Mm-hmm. Parce qu'ils préfèrent rester dans des millénaires.
Dans leur petite routine.
De routine, dans les millénaires de routine.
Et puis leurs avantages, quand même.
Il y a plein d'avantages, financiers, entre autres. Hein, être la classe, top classe de Jérusalem.
Tout ça, tu vois, on comprend pas pourquoi ils l'ont rejeté, mais finalement...
Si, hein.
Oui.
Et ils l'ont rejeté parce que Jésus dénonçait la plupart de leurs travers. Publiquement. C'est pas juste « je te parle à toi dans l'oreille ». Lui, il faisait un discours, poum. Hein, l'histoire d'aller dans le temple pour chasser les vendeurs, c'est pas passé inaperçu totalement non plus.
Hein. Ils n'ont jamais compris la malédiction dans la Bible qui dit malheur à celui qui se confie en la loi. Ils ne voyaient que la loi, que ce seul moyen pour
la
loi. Ils n'ont pas compris que c'était une malédiction.
Ouais. En tout cas,
c'est facile ça de suivre des règles.
Oui.
C'est facile.
Ouais, ouais.
Oui, mais enfin, vous comprenez.
Oui, moi je comprends très bien.
Ils en ont créé aussi. Pour être encore plus sain.
Ils en ont, je
ne
sais pas combien. 600 et quelques.
Pourtant, l'intelligence, c'est après coup quand on a découvert le Seigneur, l'intelligence humaine, rationnelle et bien réfléchie. On est incapable. Mais ça, il faut l'éclairage de Dieu pour le comprendre.
Et si tu veux, je pense que les Juifs, du temps des sacrifices, je ne parle pas d'aujourd'hui, avaient, à cause des sacrifices, comme ils savaient que quel que soit le péché, alors sauf le crime de sang, évidemment, et les choses un peu bizarres sur le plan sexuel, il n'y avait aucun risque d'être condamné. si tu pratiquais ce que la loi exigeait. Je reconnais mon péché, je vais au temple, j'offre une tourterelle, un bœuf ou un agneau, je suis lavé ou je me plonge dans l'eau, et puis et voilà. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de pardon répétitif qui s'installait, qui peut devenir d'ailleurs à terme une religiosité malsaine. Voilà ce que certains prophètes ont dénoncé. Mais il n'y avait pas cette idée que devant Dieu, on pouvait être lavé une fois pour toutes.
Voilà, c'est ça.
Donc le salut par grâce, entre autres, c'était le salut par la répétition de la loi ou les exigences de la loi.
Écoute, c'est pas encore
pour nous, c'est difficile à comprendre.
Mais même le salut par grâce n'est pas toujours compris encore maintenant.
Ah ben, on a remplacé parfois le salut par grâce par quelques règles. bien légalistes, hein, qui nous permettent de croire qu'on est bien. Voilà, d'assumer qu'on est bien. Alors, il reste un dernier petit truc, peut-être, si on a le temps. Je ne voudrais pas aller au-delà du verset 30, parce qu'alors on est reparti dans une nouvelle démonstration qui nous demandera quand même un petit peu de recul, mais au moins finir par l'idée qu'il a été déposé au tombeau. C'était la dernière partie de ce verset, je ne sais plus lequel, 29, hein, oui, c'est ça. Alors, je voudrais d'abord dire qu'en grec, tombeau, néméion, ça veut dire lieu de mémoire. Un tombeau, ce n'est pas un caveau, c'est un lieu de mémoire, de souvenir, c'est le lieu du mémorial. D'accord ? D'ailleurs, plus le tombeau est beau, mieux c'est pour se rappeler de la personne en question. Donc, on nous dit qu'ils ont l'a déposé. Sous-entendu, alors si on suit le discours de Paul, ben, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont été dépendre de la croix et mis au tombeau le gars. Mais c'est quand même très étonnant.
Oui, parce que ce n'est pas eux qui ont dépendu.
Exactement.
C'est Joseph d'Arimathée.
Ok. Et même un autre, dit Jean. Est-ce que vous vous souvenez qui ? Ce n'est pas grave. Alors. Oui. Comment il s'appelait celui-là, dans le début de...
Nicodème.
Ok. Donc, on découvre, alors c'est dans Matthieu et Luc, il s'agit de Joseph d'Arimathée. Pourquoi on met Joseph d'Arimathée en premier, au premier plan ? Parce que c'est un homme riche et que ça lui appartient, le jardin et le tombeau. Bon, c'est normal qu'on lui fasse un petit courbette quand même. Hein. Et puis Jean, lui, dans les évangiles, chapitre 19, versets 38 à 42, nous donne une petite version, un petit bémol, en disant « Oui, mais Joseph n'était pas tout seul. Il y avait aussi Nicodème. » Et du coup, on peut se dire, mais finalement, qui a raison ? Paul, avec son « ils » ou son « on » ou bien les évangiles et Jean, lorsqu'ils disent que c'est deux personnes qui ont été. Alors, essayons de réfléchir.
Peut-être qu'il n'a pas voulu souligner, désigner une personne en particulier. Ouais, c'est l'ensemble qui a abouti à...
Oui, il y a de ça, mais...
Est-ce que ce n'est pas le fait que... Ils ne font pas partie des disciples.
Alors ça devient intéressant.
Ce sont des religieux, entre guillemets, mais plus ou moins honnêtes.
Mm-hmm. Alors, ce qu'on sait, c'est quoi ? C'est qu'ils sont finalement secrètement disciples de Jésus.
Oui.
En tout cas, on le dit clairement pour Joseph d'Arimathée, si on relit les textes.
Et Nicodème,
qui va le voir au tout début de l'évangile de Jean, etc. On voit bien qu'il y a une accointance entre Nicodème et Joseph d'Arimathée, mais il y en a une autre. Il y a autre chose qui les réunit et qui permet que Paul dise « ils », comme si c'était les Juifs.
Il y a eu l'accord des Romains, de le dépendre.
Oui, alors, qui l'a obtenu ? Joseph d'Arimathée, ouais. C'est lui qui est allé demander. Donc, ce Joseph devait être assez bien connu. Mais pour quelle raison ? Pas simplement parce qu'il est riche.
On dit que c'est pour éviter la corruption, parce que
il fallait. En plus, c'est une veille de Pâques. C'est pas n'importe quel Shabbat. Non seulement il faut appliquer la loi, on dépend et on enterre tout de suite, mais là c'est pire. Il y a la sainteté du grand Shabbat de Pâques.
Les religieux n'auraient pas fait un pas, tu vois, pour dire qu'ils ne peuvent pas rester là, quoi.
Non, ça, je crois qu'il s'en foutait un peu.
C'est vrai ?
Par contre,
ah ouais,
qui sont ces deux personnages ? Allez, je ne vais pas vous titiller.
Nicodème n'était pas pharisien.
Alors, Nicodème pharisien.
Oui.
Et l'autre ?
Et d'Arimathée, un conseiller ? Non.
Quelqu'un qui avait un rôle politique, peut-être ?
Tous les deux sont au Sanhédrin. Tous les deux sont membres du Sanhédrin. C'est-à-dire, tous les deux font partie des chefs qui ont condamné Jésus. Alors attention, il faut aller jusqu'au bout de la démonstration. Ils n'ont pas personnellement souhaité la mort de Jésus. Et d'ailleurs, on nous le dit clairement, à leur décharge, on apprend que Joseph, alors ça c'est dans Luc 23, on apprend que Joseph n'a pas participé à la condamnation de Jésus. Il n'était pas là. Alors, soit qu'il n'ait pas voulu y aller, soit qu'il était malade, ça le texte ne nous le dit pas, mais il a eu un empêchement qui fait que lui n'a pas participé à cette décision. Sincèrement, je pense que leur appartenance secrète à la voie messianique fait que, quelque part, ils n'ont pas pu participer, ils n'ont pas pu lever la main et dire « Oui, allez, qu'on en finisse avec ce gars. » Non. Et d'ailleurs, on découvre dans Jean, début de Jean, chapitre 7, versets 50 à 51, que Nicodème le pharisien avait autrefois déjà pris la défense de Jésus dans un espèce de procès rapide où il leur dit « Dites, on ne condamne pas quelqu'un comme ça. Il faut quand même... Et du coup, on n'a pas osé condamner Jésus. » Donc, on imagine bien que si déjà dans le passé, Nicodème avait le courage politique de défendre quelqu'un qui paraissait indéfendable aux yeux des autres, il n'y a aucune raison qu'il ait retourné sa veste au dernier moment. Donc les deux, ils sont dans le « il » parce qu'ils font partie de l'élite politique du pays, l'élite religieuse. Ils font même partie du grand conseil qui dirige la Judée. Donc nécessairement, il n'y a pas de contradiction biblique si on leur colle le « il ». Mais nous savons, par la lecture des évangiles, qui étaient ces hommes-là ? Et on peut comprendre. On peut comprendre.
D'un autre côté, de dire aussi simplement que ça, c'est pas évident pour ceux qui écoutent de dire ah, comment ils ont tué et ils ont accepté et ils ont dépendu et ils ont mis dans le tombeau. Ça ne devait pas être facile de comprendre.
Oui.
Mais bon. C'est vrai que intéressant de réfléchir sur ce « il ».
Je pense que, en tout cas nous, je ne parle pas des Juifs qui écoutent Paul à ce moment-là, nous, on a un peu plus facile cette fois-ci, parce qu'on sait qui a vraiment participé. On aurait peut-être tendance à dire très rapidement, si on disait, tiens, c'est qui finalement qui a été dépendre, on dirait, oh, les disciples. Ben non, ce n'est ni les femmes, ni les disciples. Les deux qui s'occupent de la dépouille, peut-être même pour des raisons religieuses, on l'a vu tout à l'heure, oui, peut-être qu'ils veulent vraiment appliquer la loi. C'est les deux peut-être qui, au Sanhédrin, ont le courage d'appliquer la loi. C'est de faire en sorte qu'il y ait une inhumation immédiate, que le corps de Jésus soit préservé. Car non, si vous relisez Luc et Jean, vous découvrirez que ces hommes avaient même tout préparé. Ce que les femmes pensaient qu'il n'avait pas été fait. Eux-mêmes ont amené des aromates, le linceul et tout le bazar. Eux-mêmes s'en sont occupés.
Qui est-ce que dans la Bible on dit que c'était, il était disciple en secret ?
Nicodème. Les disciples et les femmes n'ont pas pensé à dépendre quoi. Où est-ce que
je pense que eux s'étaient tous planqués quelque part. Déjà. Ils n'auraient pas eu Non, pas le culot, même pas le courage non plus.
Le temps, peut-être, les autres
sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus. Qu'est-ce que tu veux aller t'adresser à Pilate pour lui dire, dites-nous, on aimerait bien quand même inhumer le bonhomme, là. Rien du tout. Normalement, ce qui se passe après une crucifixion, c'est que les Romains eux-mêmes dépendent et jettent dans une fosse commune qui était en dessous de Golgotha, comme est livré aux chiens les trois quarts du temps, même pas enterré, par couvert de terre. Donc, tu te dis, bon... Là, il y a quand même toute une démarche qui ne pouvait être faite que par quelqu'un
de
reconnaissable, comme une autorité avec qui on peut avoir un vis-à-vis, un pied d'égalité. Donc quand Joseph va... Alors, Joseph ne devait pas être n'importe qui, à mon avis, puisqu'on souligne bien le côté richissime du bonhomme, etc. Il va trouver Pilate et lui dit, « Dites, moi, tu sais qui je suis ? Nous, on veut enterrer ce gars, et puis voilà, time, quoi. » Et Pilate, on le dit clairement ici, Pilate ne s'y oppose pas, évidemment. Pilate trouve ça...
En plus,
il était déjà pour la mort du bonhomme. Il n'a rien trouvé de mieux que de dire oui. Hein.
Mais finalement, quand on parle de sépulcre, est-ce qu'eux n'enterrent pas justement en pleine terre?
Pas nécessairement, en tout cas pas au premier siècle.
Au premier siècle.
La plupart du temps, c'est des caveaux.
Et dans le passé.
Ben surtout non, à Jérusalem.
Ouais, ben non, parce qu'effectivement, quand Abraham veut
c'est souvent des grottes,
des caveaux.
Tu sais, on peut visiter aujourd'hui, autant à Jérusalem qu'à Nazareth, des tombeaux creusés dans la roche. Hein.
Oui.
Il y en a plein du 1er siècle, 2e siècle. Avec l'histoire des pierres roulées, tout ça est authentique.
Et les catacombes aussi, c'est
finalement, les Égyptiens.
C'était des...
différent, mais c'est la même chose.
Oui. Les chrétiens
étaient enterrés dans les catacombes. Pièces fermées, mais
notamment à Rome.
On n'enterrait pas dans le sable.
Mais les juifs, c'est plutôt dans la terre.
Oui, c'est ça. En fait, tu es enveloppé de ton linceul, on te descend en terre, on te recouvre et c'est bon.
Oui, c'est ça. Hein. Ouais.
Maintenant.
Même à l'époque, ça pouvait se faire. D'ailleurs, t'imagines bien que ceux qui sont morts dans le désert n'avaient pas nécessairement un caveau pendant 40 ans.
On est bien d'accord.
Il n'y avait pas une différence au niveau des classes sociales. Il y avait des tombeaux de riches.
Bien sûr. Il y a des urnes. En fait, c'est drôle parce que. Même, t'imagines qu'à Jérusalem, on trouve encore aujourd'hui dans les fouilles archéologiques des petits caveaux, pas plus grands que ça, dans lesquels on finissait par collecter les os. Donc on te mettait dans une tombe au départ, puis quand t'avais bien dégraissé, on ramassait tout ça, on mettait dans une sorte d'urne funéraire qui était entreposée dans des grottes avec d'autres funéraires, souvent du clan familial, de la tribu. Oui. On en trouve encore aujourd'hui dans les fouilles archéologiques à Jérusalem.
Et on n'a jamais brûlé.
À brûler, c'était pas très bien vu non plus. Pondaison et brûlure, c'était pas génial.
Pondaison, c'est pas la même chose. Mais le défunt, le mort, disons, on n'a jamais.
Non.
Mais pourquoi ? Parce que passer par le feu, qu'est-ce que ça veut dire en Israël ? Enfin, à l'époque.
L'extermination.
Ça peut être l'extermination, mais c'est aussi le sacrifice.
Mais est-ce qu'il n'y a pas dans certaines religions, je ne sais pas si c'est chrétien, qu'on suspend, qu'on les brûle. C'est pas
un bûcher.
Non, mais si, c'est une sorte de bûcher. On les suspend et bon. Et puis on les brûle, ce n'est pas. Mais c'est ce que je dis, c'est pas la même religion, c'est ça que je veux dire. C'est pas la même chose.
Non, écoute, franchement, en Israël.
Je pense qu'ils doivent retourner en terre.
En Israël, brûler un corps.
Tu es en poussière et tu retournes à la poussière.
C'est pour ça qu'on t'a enterré.
Mais oui.
Mais tu vois, brûler un corps en Israël, c'est presque une malédiction.
Oui.
C'est pas une bonne chose.
Non.
Parce que ça fait appel soit à l'extermination, à la guerre, dévoué par interdit, tout ces trucs-là.
Il y a des chrétiens qui n'acceptent pas la crémation. Hein. Ils ne veulent pas la crémation pour eux-mêmes.
Ça, je peux comprendre.
Maintenant, est-ce qu'un jour, on nous l'imposera pas?
Ça, c'est sûr.
Est-ce que vous êtes content du voyage?
Non,
on en arrive au verset 30.
Oui,
et puis,
c'est vrai. Ça
à partir de 30, ça change. Alors, autant... je termine avec ça. Autant ce qu'on vient de voir était plutôt dur à entendre, accusateur à certains moments, négatif, parce que soulignant le péché du peuple de Jérusalem et des chefs, on passe avec le verset 30 et suivant à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et donc, ça fera l'objet de notre... on met un peu de suspense. Notre prochaine rencontre. Voilà. Ce qui n'empêche pas de travailler le reste du questionnaire, donc, par rapport à ça.
D'accord.